Philosophe, une série de France Inter pour comprendre, découvrir ces grandes figures, ces révolutionnaires dont les idées, les concepts ont changé la manière de voir et vivre le monde. Simone Veil. Née à Paris en 1909, morte à Ashford en Angleterre en 1943. Contemporaine de Camus, Arendt, Picasso, De Gaulle, engagée auprès des républicains espagnols en 1936, elle rejoint la France libre à Londres en 1943. Avec l'un de nos grands philosophes, il est directeur de l'École normale supérieure. Bonjour Frédéric Worms.
Bonjour Ali Badou.
Premier thème, première manière d'aborder la vie et l'œuvre de Simone Veil, la question du malheur. Partons d'une célèbre phrase d'Albert Camus. Albert Camus, l'éditeur et le philosophe qui va publier à titre posthume un texte de Simone Veil devenu très célèbre et dont il a choisi le titre « L'enracinement ». Camus n'imaginait pas, et je le cite, « pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies ». En quoi est-ce que Simone Veil était une révolutionnaire ?
Merci d'abord de revenir sur Simone Veil, sur tous ses contemporains, y compris Camus, qui est décisif évidemment parce qu'il l'édite après la guerre. Enfin, il est un des éditeurs après la guerre en fait. Il répond aussi par son projet d'édition à un volume qui a assuré la gloire de Simone Veil après la guerre, qui s'appelait La pesanteur et la grâce. Et en fait, il veut rendre compte de l'ensemble de son œuvre. Et lui-même, quand il reçoit le prix Nobel, il va se recueillir dans la chambre de Simone Veil, rue Auguste Comte, dans l'appartement de ses parents. En quoi Simone Veil est-elle révolutionnaire ? Elle a beaucoup critiqué le mot « révolution ».
Oui.
Elle dit même dans son premier grand texte personnel de 1934 qui s'appelle « Réflexion sur la liberté et les causes de l'oppression sociale », elle dit même que c'est un mot magique auquel il faut renoncer parce que précisément il y a une fiction pour elle dans l'idée de révolution, c'est que ça pourrait nous débarrasser du malheur justement individuel ou social. Donc il y a une fiction de la révolution en tant qu'elle changerait tout. Donc il faut d'abord, et je pense que c'est pour ça aussi que Camus, comme moi, comme d'autres, la révérons en quelque sorte, il faut accepter les expériences absolues des humains dans les deux sens, négatives, et il y a aussi des expériences positive. Donc la révolution selon Simone Veil, c'est de comprendre comment le malheur qui constitue notre condition peut être combiné avec la joie, avec l'amour, avec la justice, sans pour autant disparaître. Par contre, on doit construire un ordre social et une vie humaine telle que l'expérience du malheur ne soit jamais séparée de celle de l'amour, de la beauté ou de la vérité. Donc il y a ces deux expériences extrêmes qui doivent nous orienter et elles sont absolues.
Parce qu'elle est contemporaine de révolutions et de révolutions partout en Europe, mais évidemment de la révolution communiste pour commencer, elle n'est pas révolutionnaire au sens où elle voudrait une conversion au mysticisme. Concrètement, elle demande qu'on critique la société, elle le fera, elle critique le moi, elle critique tout ce qui nous éloigne de la vérité au profit de la force. Mais qu'est-ce qui fait l'importance de l'œuvre de Simone Veil encore aujourd'hui ?
Ce qui fait son importance, justement, c'est de, à mon avis, c'est de reconnaître des expériences absolues. Des expériences qui s'imposent à nous. Autrement dit, dans un moment qui, pour moi, c'était celui de la philosophie de l'existence, où on dépasse la métaphysique avec l'absurde de Camus, avec la liberté gratuite, le projet sartrien qui n'a pas de contenu mais qui est radicalement libre, eh bien, il y a ce risque que la subjectivité n'ait plus de repères. Et en fait, pour Simone Veil, il y a des repères absolus, négatifs et positifs, encore une fois, la nécessité qui nous frappe dans le malheur. Le malheur, c'est le hasard qui détruit la subjectivité radicalement. Et d'un autre côté, l'amour ou la joie et la justice. Donc, il y a des expériences absolues. Donc, on a besoin d'elle. Et encore une fois, sur la révolution, pour en redire un petit mot, elle pense que Marx a découvert des mécanismes négatifs.
L'aliénation
sociale, l'oppression liée au mode moderne du travail, disons.
Et du capitalisme.
Voilà, mais elle pense qu'il a commis l'erreur de croire qu'on pouvait s'en libérer magiquement. Donc, au fond, elle accepte le diagnostic critique, mais croire qu'on peut se libérer de l'aliénation en général ou du malheur en général, c'est une fiction. Donc, elle a gardé ce cap de l'alternative malheur ou joie, avec, évidemment, pour elle, l'absolu ça pourra être la transcendance.
On va en parler.
Mais la force de Simone Veil, je pense, et comme Camus l'a reprise aussi, c'est de dire il y a de l'absolu, mais pour l'humain quand même. Ça peut pas se passer de notre vie, de notre expérience, de l'âme humaine.
Alors pour plonger dans l'œuvre de Simone Veil, il y a donc ces mots de Camus, il y a ce que vous nous dites de la Révolution, et il y a aussi un film indispensable, Europe 51, de Roberto Rossellini, Frédéric Worms. C'est l'histoire d'une femme qui est jouée par Ingrid Bergman. Cette femme est terrassée par le chagrin après la mort de son fils. Et c'est un chagrin qui l'amènera par-delà les mensonges de son milieu social, de la bourgeoisie, à voir, à toucher, à vivre le malheur même de l'humanité. Et elle va, à partir de ce moment-là, commencer à s'occuper des personnes dans le besoin. En quoi est-ce que ce film est si important pour introduire à la pensée de Simone Veil, dont il est largement inspiré, comme le dira Rossellini lui-même?
Exactement. Roberto Rossellini a reconnu l'importance de la lecture de Simone Veil pour la conception de ce film, dont le titre est fort, hein. Europe 51, ça dit non seulement l'état d'une personne, mais de l'Europe et du monde après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est une œuvre géniale, y compris dans la réception, dans la compréhension de la pensée de Simone Veil. Parce que, effectivement, après la guerre, il y a eu deux lectures de Simone Veil. Une lecture tout de suite après la guerre dans la foulée du recueil La pesanteur et la grâce, qui a été un best-seller inouï,
oui.
Et qui, on voit bien la dualité quand même, La pesanteur et la grâce, mais qui faisait de Simone Veil, en plus d'origine juive, devenue très proche du christianisme, au bord de la conversion, mais n'y allant pas, on y reviendra peut-être.
Évidemment.
Qui fait de Simone Veil une figure mystique plutôt tournée vers la grâce que vers le malheur. D'ailleurs, pesanteur, c'est un peu plat par rapport à malheur, hein. Et donc, Gustave Thibon, qui avait édité ce recueil, était dans cette lecture qui, en Italie notamment, a été majeure. C'est-à-dire, Simone Veil a construit la démocratie chrétienne, italienne et européenne. Elle a présenté une ouverture au christianisme qui semblait dévastée par la guerre, et voici qu'une philosophe française d'origine juive, comprenant le malheur, s'oriente vers la grâce et redonne sens à un christianisme social, etc. Et d'un autre côté, Albert Camus édite, lui, La condition ouvrière, en montrant que la question du malheur est aussi importante que celle de la grâce. Et voilà Rossellini, qui génialement, d'une certaine façon, tient les deux bouts. C'est-à-dire, c'est comme si le cinéaste du réalisme italien, qui en effet est frappé par la figure de Simone Veil, comme tous ses contemporains, après coup, puisqu'elle est morte elle-même en 43, eh bien, il voit que c'est l'expérience du malheur qui est première. Voilà une grande bourgeoise qui vit dans une fiction sociale,
oui.
Du plaisir, du confort, etc. Et la mort de son enfant lui fait réaliser que le malheur brut existe, qu'elle peut être détruite. Et tout à coup, elle prend conscience du malheur autour d'elle, de la pauvreté, et son milieu social la juge folle et finit par l'interner. Donc il y a à la fois l'expérience du malheur, l'expérience de la grâce, finalement, une sorte de mystique un peu chrétienne, mais en même temps une critique sociale radicale. Donc c'est pas une conversion du jour au lendemain, c'est un combat, et surtout cette aliénation qui est d'une violence inouïe, qui enferme la personne qui a pris conscience de la vérité.
L'aliénation, elle ne la vit pas simplement de manière théorique, elle ne la vit pas simplement comme une fiction, comme aurait pu la penser Marx ou d'autres révolutionnaires après lui. Entre décembre 1934 et août 1935, Simone Veil se fait embaucher dans les usines Alstom et Renault, et elle y fait l'expérience de l'épuisement complet du corps et de l'esprit. Elle fait l'expérience des cadences infernales, de la condition de bête de somme résignée, je la cite. Il y a une vraie pensée du malheur, donc de ce que elle appelle la pesanteur, et elle la tient notamment de cette expérience-là. Mais quel en est le point de départ? Qu'est-ce qui fait qu'une philosophe s'engage dans une usine et vit ce qu'il y a de plus dur dans la condition ouvrière?
Elle l'avait déjà un peu écrit dans son texte de 1934 dont j'ai parlé, Réflexion sur la liberté et les causes de l'oppression sociale. Et finalement, l'idée, c'est de comprendre une des formes du malheur humain. Bien sûr, il y en a d'autres. Elle parle de l'esclavage, elle parle du deuil, elle parle de tout ce qui détruit l'âme humaine. Mais aller la chercher dans le travail à l'usine, c'est comprendre comment le travail, qui est une expérience de toute façon de la nécessité, qui est une expérience douloureuse par principe, mais une expérience dans laquelle on peut avoir un sens, si on combine la nécessité et le sens, c'est ce dont nous dépossède le travail en usine. Et donc, en effet, le travail en usine, elle l'apparente à un esclavage, à une perte de sens,
à une
humiliation constante.
Un écrasement de tout son être, à l'impossibilité de penser Face à la répétition des tâches, la pensée se recroqueville, écrit-elle, comme la chair se rétracte devant le bistouri. On ne peut pas être conscient. Il y a quelque chose de très puissant dans ces mots, mais qu'est-ce que la force ? Pourquoi est-ce que la force est à l'origine du malheur ?
La force, c'est selon elle ce qui réduit l'âme humaine à une chose.
Oui.
L'âme, c'est ce qui en nous désire et désire le bien. Et la force vient au contraire non pas répondre à cette attente, mais la détruire et la briser radicalement. Et c'est comme s'il fallait qu'elle en fasse l'expérience elle-même pour mesurer l'effet qu'elle ne peut pas seulement décrire de l'extérieur. Ce sont des engagements qui lui permettent de parler non pas seulement en connaissance de cause, mais de vérifier une hypothèse philosophique. C'est oui. pas seulement pour dire j'y ai été, comme une sorte de témoin, comme quand elle ira en Espagne ou quand elle ira en Angleterre. C'est une philosophe qui a une thèse très précise, à savoir qu'il y a des degrés dans le négatif et que l'expérience de la douleur, l'expérience de la nécessité n'est pas nécessairement celle du malheur, parce que le malheur détruit radicalement celui ou celle qui en fait l'expérience.
Frédéric Worms, la philosophie de Simone Veil est souvent associée à un mot, l'enracinement, titre donc de l'un de ses essais choisis par Albert Camus. L'une des formes du malheur chez les humains vient justement du déracinement. Qu'est-ce que ça veut dire être enraciné ? L'enracinement, écrit-elle, est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine, mais ça n'est pas une pensée réac, ça n'est pas une pensée conservatrice, paradoxalement. Alors aidez-nous à définir ce mot si compliqué aujourd'hui à appréhender. Enracinement.
Il faut bien voir en effet que pour Simone Veil, être un être humain, c'est ne pas être une subjectivité abstraite perdue dans l'univers. C'est pour ça que, d'une certaine manière, elle résiste à Camus, à Sartre, à l'existentialisme, pour qui la liberté existe, mais se découvre face à un monde absurde, un non-sens, etc. Être un humain, c'est être pris dans une expérience réelle de la nécessité des choses, d'une appartenance collective, d'un monde qui nous résiste, et de joie réelle. Donc c'est être vraiment dans un monde concret, y appartenir.
Oui.
Donc c'est être enraciné. Mais c'est être enraciné dans des vérités éternelles. Par exemple, être membre
d'une... C'est pas un rapport au passé.
Si, ça en fait partie. Être dans une collectivité qui a une histoire fait partie de cette condition humaine. Mais surtout, elle n'est pas sacralisée en tant que telle ou telle condition humaine. Elle est sacralisée en tant qu'un besoin de l'âme humaine en général. De telle sorte que, évidemment, il faut, par exemple, que nous fassions partie d'une collectivité concrète, d'une histoire, d'une, par exemple, de la France.
Oui,
mais,
parce qu'elle...
Mais dans la page d'après,
oui.
elle dira... Notre collectivité se rend coupable de crimes si elle vient déraciner d'autres collectivités. Donc c'est une critique aussi, après les pages qui sont aujourd'hui reprises dans certains milieux politiques pour dire, voilà, elle reconnaît l'importance de la tradition.
Disons simplement à droite et à l'extrême droite.
Oui, une forme de nationalisation unilatérale de Simone Veil. Bah, la page d'après, elle dit, les hommes de race blanche ont déraciné, ont produit le malheur de millions d'autres êtres humains. Donc il faut universaliser le besoin d'appartenance à une collectivité. Tout le monde en a besoin, il faut le respecter. C'est paradoxal, c'est ce qui la rend insituable.
Parce que justement, qui souffre de ce déracinement, ce ne sont pas seulement les ouvriers auxquels elle a consacré tant et tant de pages et une partie de sa vie. Le déracinement, il a une dimension culturelle absolument essentielle. C'est une théoricienne de la décolonisation. Il y a déracinement toutes les fois qu'il y a conquête militaire, et en ce sens, la conquête est presque toujours un mal. Comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux, l'enracinement et le refus du déracinement, même chez les autres, Frédéric Worms ?
Ben en l'universalisant.
En l'universalisant.
En l'universalisant, elle dit d'ailleurs à un moment, nous avons des racines dans le ciel. C'est-à-dire que les racines dont elle parle ne sont pas dans telle ou telle collectivité par opposition aux autres, qui serait une qui serait meilleure que d'autres, une qui serait ceci ou cela. Elles sont dans le fait en général d'avoir besoin d'une solidarité entre les êtres humains pour remplir nos autres obligations, pour nous rendre compte de la beauté du monde, pour faire l'expérience de la nature, pour faire l'expérience du travail libre. Ce sont en fait des enracinements dans ce qu'elle appelle des obligations éternelle
et ça, on va en parler.
Universelle. Et donc, en un certain sens, la conciliation est nécessaire, puisque s'enraciner soi en déracinant les autres, c'est évidemment ne pas être soi-même enraciné non plus, puisqu'on quitte l'universel, on quitte l'éternel.
Alors, enracinement, déracinement, comment est-ce qu'on lutte concrètement contre le déracinement, contre ce mal qui menace nos sociétés ou qui les a toujours menacées, qui est toujours un risque pour le collectif et ceux qui y vivent ?
On ne lutte pas par une mystification. en disant soit qu'on peut délivrer les hommes de toute aliénation, soit qu'on les plonge d'un coup dans un enracinement opposé aux autres, qui seraient guerriers et qui les, leur donneraient une identité définitive. Pas du tout. Il faut redonner contact avec toutes les relations fondamentales de la vie humaine. Donc bien sûr, l'histoire collective, l'histoire d'une nation, dans ce qu'elle a de plus beau, dans les poèmes les plus purs, dans les expériences les plus justes, dans les héros du bien, mais aussi par l'enseignement des mathématiques, par l'enseignement de la vérité. Donc il faut un peu de tous les enracinements.
Merci Frédéric Worms. À suivre, Simone Veil, l'amour.